Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous vous posez des questions sur les liens entre notre alimentation et les enjeux sociétaux et environnementaux, vous êtes au bon endroit. À quoi servent les circuits courts? Sont-ils vraiment vertueux? Peut-on encore boire de l'eau du robinet? Faire confiance au label bio? Est-on crédible à parler bien-être animal quand on est éleveur? Ce sont toutes ces questions, et bien plus encore, que nous passons sur notre grill. Ce podcast vous est présenté par Fanny Giancetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable est à la fois un label et une communauté de restauration durable. Notre objectif est de permettre à toutes et à tous de choisir des restaurants éco-responsables, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale de la restauration en offrant des prestations de conseils sur mesure. Pour nous soutenir, vous pouvez noter ce podcast 5 sur 5, vous abonner, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans nos restaurants vertueux et délicieux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de carbone et plus précisément de la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Cette pratique se développe ces dernières décennies. Et on peut le comprendre car les rapports scientifiques sont alarmistes sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les données sont claires. Nous devons réduire nos émissions de CO2 de 45% d'ici 2030 et de 70% d'ici 2050 pour éviter des effets délétères durables sur les humains, les écosystèmes et la planète. Mais réduire ne veut pas dire compenser. Dès lors, ce concept même de compensation carbone m'interroge. La compensation carbone constitue-t-elle une alternative crédible? Est-elle même efficace? Que faut-il penser lorsqu'on entend certaines sociétés comme Nespresso dire et mettre en avant le fait que leur produit est désormais zéro carbone? Et qu'en est-il du point de vue de l'alimentation qui génère aujourd'hui entre un quart et un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre? Pour en parler, je suis avec Laura Carrère. Laura est directrice commerciale d'Ecoact. Ecoact aide les entreprises et les acteurs à se développer de manière durable en proposant notamment des solutions de décarbonation. Bonjour Laura.
Bonjour Fanny, enchantée.
Enchantée. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que fait Ecoact exactement?
Tout à fait. Alors moi, je suis directrice commerciale chez Ecoact. Qu'est-ce que c'est qu'Ecoact? C'est une entreprise qui est à l'origine un développeur de projets de compensation carbone et qui a, au fil du temps, depuis les 15 ans qu'Ecoact existe, développé une activité de conseil sur tous les sujets climat et carbone de nos clients qui sont à la fois des grandes entreprises mais aussi des collectivités et donc tout ça en France à l'origine puisque Ecoact a été créé il y a 15 ans en France mais depuis en fait on s'est étendu et on est présent aujourd'hui au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne et bientôt j'espère en Italie.
Donc, est-ce qu'on peut dire que la compensation carbone, déjà, est un business qui marche?
Oui, alors la compensation carbone, c'est effectivement chez nous une activité commerciale, hein, puisqu'on n'est pas une organisation non gouvernementale. Donc, c'est effectivement une chaîne d'activité aujourd'hui à part entière. Maintenant, c'est un marché qui est encore assez petit, hein, puisque, okay. Puisque c'est des activités qui se sont largement développées depuis une quinzaine d'années, mais qui étaient encore embryonnaires il y a 6-8 ans.
D'accord. Je voudrais aller directement dans notre sujet et peut-être déjà revenir sur la base, c'est-à-dire qu'est-ce que la compensation carbone?
Oui, oui, je pense que c'est bien de revenir là-dessus. La compensation carbone est à distinguer. La compensation volontaire carbone est à distinguer de la compensation qu'on appelle obligatoire et qui s'appuie sur les quotas carbone qui sont par exemple en Europe mis sur le marché par donc l'Union européenne et c'est un marché qui est régulé, le marché qu'on appelle des EUETS. C'est un marché qui est régulé et qui s'adresse par exemple aux grandes entreprises énergétiques ou aux grandes entreprises industrielles qui sont particulièrement polluantes en carbone. Donc la compensation volontaire. Comme son nom l'indique, elle s'appuie sur des schémas qui sont des schémas volontaires et donc que les entreprises choisissent de suivre en fonction de leurs objectifs climatiques indépendamment de toute régulation. Et cette compensation volontaire, elle s'appuie sur des structures qui sont à la base non gouvernementales, qui sont ce qu'on appelle des labels de certification et qui valident, ou pas d'ailleurs, pour les projets qui lui sont présentés, les crédits carbone qui sont générés par ces projets. Alors si je vous prends un exemple qui est assez simple à comprendre, si vous avez par exemple un projet de reforestation en Amazonie, ce projet-là, il va intrinsèquement être non viable en fait, hein, d'un point de vue purement économique, et donc il va faire appel à la finance carbone, donc à ces générations de crédits carbone pour avoir un business model qui fonctionne. Et donc, en fait, le porteur de projet va être l'entité qui s'adressera au label, au certificateur en fait des crédits carbone pour pouvoir déclarer qu'il génère tant de crédits carbone par an. Donc ces labels dont je vous parlais, les deux plus connus aujourd'hui, c'est le Gold Standard et Verra.
Et ce qui veut dire qu'il y a besoin d'un label pour compenser.
Oui, il y a besoin d'un label parce qu'en fait, c'est assez facile finalement de pouvoir dire du jour au lendemain, je plante des arbres, donc je séquestre du carbone. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour pouvoir vraiment prétendre à la séquestration de carbone, il faut pouvoir démontrer un certain nombre de critères qui sont, je dirais, essentiels à la robustesse de l'exercice. Et par exemple, ça va être la pérennité de la séquestration. Parce que si vous plantez une nouvelle forêt en Amazonie et puis que, en fait, 10 ans plus tard, vous vous en occupez plus et qu'elle brûle, la pérennité est complètement remise en question. De même, ce que les labels regardent de façon très très précise, c'est ce qu'on appelle l'additionnalité. Et l'additionnalité, c'est le fait que la finance carbone, c'est-à-dire que les flux de revenus qui sont liés à la vente de ces crédits, soient nécessaires au développement du projet. Autrement dit, si on a par exemple une entreprise, typiquement une entreprise de production de café, tout à l'heure vous mentionniez Nespresso, imaginez que Nespresso finalement est sa plantation de café, Nespresso pourrait claimer entre guillemets d'avoir finalement le droit à des crédits carbone parce que les plantations de café absorbent du CO2. Mais ça, alors c'est pas forcément exclu d'ailleurs, hein, ça peut s'attribuer, mais il faut montrer que finalement la viabilité de la plantation de café dans la région considérée, elle ne peut finalement être mise en place que avec l'aide additionnelle du financement des crédits carbone. Vous voyez ?
Je comprends. Je pense qu'il y a besoin de revenir aussi sur cette notion de séquestration carbone. Parce que, si je me trompe pas, et vous allez pouvoir nous en dire plus, la notion de compensation de carbone, c'est de dire, en fait, peu importe où on émet notre carbone, autre part sur Terre, on peut en séquestrer. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'annuler l'effet de cette émission?
Oui, alors en fait, c'est vrai que aujourd'hui, les études du GIEC et les études scientifiques globales sur les émissions de CO2, ça considère les émissions globales des activités humaines, et donc c'est des émissions qui sont monitorées sur notre planète en entier. Hein. Donc la logique de la compensation carbone, c'est de se dire finalement les émissions que j'émets moi sur ma chaîne de valeur, ou en tant qu'être humain, même par ma consommation, je peux les compenser en réduisant les émissions d'un autre processus ailleurs ou en séquestrant du carbone. Donc j'insiste sur en fait la compensation. Aujourd'hui, il y a deux types de projets. Il y a des projets de réduction des émissions carbone. Donc un exemple typique, si vous voulez, c'est par exemple l'installation de foyers de cuisson améliorés dans des villages africains où jusqu'à présent, on a fait la cuisine avec des foyers à 3 pierres, donc en faisant du feu dans sa maison, quoi, en gros. Hein. Et donc ça, c'est très émissif de carbone, hein, puisque c'est des processus... vous faites du feu de bois, quoi, en gros, hein, chez vous. Et par ailleurs, c'est aussi mauvais pour la santé, parce que ça fait émettre des particules fines. Et ensuite, ça contribue à la déforestation des environnements. Donc, il y a un certain nombre de projets qu'on dit fours de cuisson améliorés, qui sont là pour remplacer ces foyers à 3 pierres par des fours de cuisson qui vont rester quand même rudimentaires, mais qui vont être beaucoup moins émissifs parce que plus efficaces. Et donc, ces foyers de cuisson améliorés, ils ont, si, encore une fois, les méthodes sont appliquées correctement, ils vont pouvoir avoir le droit à des crédits carbone qui vont aller réclamer, entre guillemets, à ces organismes de certification dont je vous parlais, donc le Gold Standard et le Vera, qui sont reconnus par la Banque mondiale. Hein, c'est à la fois des organismes de certification et des registres. Parce qu'une fois que des projets, finalement, ont émis ces crédits carbone, les crédits carbone sont consignés dans des registres qui sont publics, où vous pouvez voir que tel projet, sur telle géographie, a donc émis des crédits carbone et qu'ensuite, vous pouvez acheter s'ils sont disponibles. Vous voyez ?
Et quel est l'intérêt de ces crédits carbone ? Est-ce que c'est de pouvoir les utiliser, d'ailleurs ?
Alors, ça a un unique intérêt qui est de pouvoir, justement... contribuer en fait hein, à la réduction des émissions carbone ou à la séquestration des émissions carbone dans le monde par un flux d'argent pour financer ces projets de réduction ou de séquestration. Et donc si par exemple vous émettez, je dis n'importe quoi, dans votre chaîne de valeur, vous émettez 1000 tonnes par jour, si vous achetez les crédits carbone correspondants, vous pouvez vous dire que vous avez contribué par ailleurs à une réduction des émissions carbone sur des process qui sont externes à votre chaîne de valeur, d'accord ? Donc, qui vont être typiquement en Amazonie, comme je vous disais, ou qui vont être en Afrique, à la même hauteur. C'est-à-dire se dire que... Donc c'est, là, il y a le terme de compensation, effectivement, de dire que vous compensez vos propres émissions.
Et alors, vous disiez qu'il y avait deux types de projets, ceux qui réduisent le carbone et ceux qui le séquestrent. Quelle est la différence ?
Alors, il y a une grosse différence là-dessus, qu'il faut bien avoir en tête. En fait, vous avez mentionné en début d'émission... Aujourd'hui, on a un gros enjeu d'abord de réduction. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Et vous avez mentionné aussi le mot d'alternative. La compensation carbone n'est pas une alternative à la réduction. La compensation carbone vient en toute fin d'un processus de réduction. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de mesurer les émissions carbone de vos processus et de vos consommations. Ensuite, de les réduire un maximum, en utilisant de l'énergie plus verte, en isolant mieux vos bâtiments, en réduisant les déplacements, par exemple, de vos collaborateurs, si vous êtes une entreprise. Et en dernier lieu, j'ai envie de dire, de compenser le restant.
Compenser ce qui ne peut pas être réduit.
Ce qui ne peut pas être réduit. Compenser l'irréductible. Et après, alors je dirais qu'il y a un peu la réalité d'aujourd'hui et puis l'objectif. La réalité d'aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué de séquestrer du carbone.
Ok.
C'est très compliqué d'avoir des processus de séquestration efficaces. Aujourd'hui, vous avez, la seule en gros qu'on maîtrise vraiment bien à grande échelle, c'est la reforestation, hein, le fait de replanter des arbres ou des étendues végétales.
Oui, on entend souvent ça, le fait que on peut prendre l'avion si on plante des arbres derrière.
Ouais, alors ça, moi je pense que c'est pas tout à fait exact. Enfin, c'est-à-dire que en fait, c'est déjà cet effort-là, si vous voulez, sur la réduction des émissions carbone, c'est une démarche qui est transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, comme on maîtrise pas très bien les procédés, notamment chimiques, hein, de séquestration carbone, parce qu'il peut y avoir des méthodes de séquestration carbone industrielles, chimiques, scientifiques, vous voyez, qui se basent pas sur le vivant, mais qui soient basées sur des procédés chimiques. Le problème, c'est que ces procédés chimiques, ils consomment de l'énergie, et donc en fait, c'est pas si évident que ça d'avoir un bilan net, oui, une fois que vous avez tout compté,
un rapport bénéfice-risque qui est positif, quoi.
Oui, et puis d'avoir une vraie séquestration à un coût acceptable. Mmh. Et aujourd'hui, finalement, les tonnes séquestrées en dehors des tonnes séquestrées avec les forêts, etc., ça peut revenir à 100 euros, 200 euros, 1000 euros la tonne. Et là, on est dans des prix que personne n'est vraiment prêt à payer aujourd'hui. Et donc, en fait, en attendant que ces technologies de séquestration soient prêtes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les émissions carbone de processus qui sont aujourd'hui non efficaces. Donc, c'est principalement dans des pays en voie de développement. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de réduire des émissions carbone dans des pays développés, tout simplement parce que les buildings sont déjà isolés, parce que chez vous, vous avez déjà des vrais fours, parce que parce qu'aujourd'hui, il y a déjà l'eau courante et donc vous ne pouvez pas installer quelque chose qui permette d'avoir de l'eau potable et qui permette du coup de réduire les émissions de la production d'eau, vu que tout est déjà bien optimisé, vous voyez, dans nos pays.
Je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites sur l'eau. Oui, ça me paraît en effet vrai, mais sur, par exemple, l'isolation des bâtiments en France.
Oui, alors c'est vrai. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Il faut qu'on le fasse. Mais vous pouvez, en fait, avoir des gains en termes d'émissions carbone très importants à moindre coût, parce que tout ça, c'est une question de coût, à moindre coût dans des pays en voie de développement où, en fait, on est obligé de faire bouillir l'eau pendant 10 minutes pour la boire. Et donc, tout ça, effectivement, ça fait des émissions carbone, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a ce que j'appellerais des quick wins, des gains faciles. Voilà, vous creusez un puits, vous n'avez plus besoin de faire bouillir l'eau. Vous mettez des filtres à eau, vous n'avez plus besoin de faire bouillir l'eau. Donc ça, finalement, ça peut être finalement assez facile à faire. Enfin, facile, hein, toute proportion gardée, mais enfin plus facile que de gagner finalement des mètres supplémentaires, de réduire encore plus des émissions dans des pays développés où voilà, tout est plus optimisé.
Et en même temps, les pays développés sont les plus émetteurs, non ?
Ouais, tout à fait. Mais enfin bon, en gros, si vous voulez... C'est ce chemin-là, le chemin de la compensation carbone aujourd'hui, il passe par la réduction des émissions carbone de processus existants, mais c'est une période transitoire. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse en 2050, et là, du coup, moi, j'ai des sources qui sont... Enfin, ça va dans la même direction que les vôtres, mais c'est quand même un peu encore plus drastique. En 2050, il faudra qu'on soit neutre en carbone.
Oui. Mais alors, au début, j'ai rédigé ça dans mon introduction pour être tout à fait honnête. Et puis, je l'ai changé parce que je me suis dit, justement, ce terme de neutralité carbone me dérange parce que je ne sais pas tellement ce qu'il veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou est-ce que ça veut dire qu'il faut juste compenser les émissions que l'on fait ?
En fait, c'est les deux. Donc, il faut vraiment réduire. Et puis, en fait, la compensation carbone en 2050, ce ne sera plus de la réduction parce qu'on aura déjà tout optimisé. Donc, il faudra séquestrer le carbone. Il faudra le capturer.
Et on en revient à nos arbres. Alors, est-ce que ça marche ?
Bah alors les arbres, ça marche dans certaines circonstances, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez planté 500 arbres du jour au lendemain que ça va fonctionner. Il faut créer un écosystème en fait, un écosystème avec une certaine biodiversité. Et donc nous chez EcoAct, on est attentif au fait de promouvoir typiquement des projets qui vont faire une reforestation qui va être hétérogène et non pas mono-espèce. Ou des projets même de préservation d'écosystèmes existants, parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de préserver un écosystème existant naturel que de le reconstruire de zéro. Parce qu'en fait, reconstruire de la biodiversité de zéro une fois qu'on a fait brûler toute une forêt, c'est très compliqué.
Oui, bien sûr. Je comprends. Par rapport à cette reforestation, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, on n'arrive pas... ces puits de carbone sont encore peu efficaces?
En fait, les puits de carbone naturels sont efficaces. Okay. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez, que ces projets-là, finalement, ils se heurtent aussi à des objectifs contradictoires, hein, qui sont des objectifs de rentabilité économique. Enfin, on voit bien ce qui se passe en Amazonie. Donc, c'est pas quelque chose de facile qu'aujourd'hui que de monter un projet de préservation des écosystèmes en Amazonie. Et ce sera pas suffisant, de toute façon. Ce sera pas suffisant pour compenser, mais au sens cette fois un peu rigoureux du terme, c'est-à-dire séquestrer tout le carbone émis par l'humanité.
D'accord. Et je voudrais revenir sur ces labels dont vous nous avez parlé au début. Est-ce qu'ils se valent tous, ces labels, ou est-ce que les cahiers des charges sont différents comme les labels qu'on peut voir dans l'alimentation ? Et derrière, justement, quelle est l'idée ? Qu'est-ce qu'ils promeuvent comme avenir ? Quelle est l'idée pour eux de cette compensation carbone ?
Alors, sur les labels aujourd'hui, il y a deux types de labels. Il y a des labels internationaux qui promeuvent donc les crédits carbone dits internationaux et qui sont majoritairement dans des pays en voie de développement. Et donc là, il y en a deux qui tiennent entre guillemets le haut du pavé. Qui sont donc le Gold Standard et Vera, qui sont deux organismes complètement indépendants. Encore une fois, on est dans le monde du volontaire, hein, donc les États n'ont pas vocation à réglementer tout ça, mais qui sont, je dirais, suffisamment ouverts dans leur fonctionnement et dans leurs registres, hein, qui sont publics, pour qu'on ce soit assez facile finalement d'avoir, je dirais, de voir que ce qui ils vont accréditer comme crédit carbone, ça va être des projets qui sont robustes, sérieux, etc. C'est des labels qui sont privés. Alors, mais ils sont pas tout seuls, hein, dans cette affaire. C'est-à-dire que un procédé pour obtenir une validation du Gold Standard et obtenir des crédits carbone pour un porteur de projet, c'est assez compliqué. Ça démarre effectivement par la rédaction de ce qu'on appelle un project design document, PDD dans le jargon, qui va décrire tout le projet. Il va dire voilà, ce projet il est sur telle géographie, on veut installer 300 fours de cuisson améliorée dans un village en Afrique subsaharienne à tel endroit avec tel fond. On anticipe la génération de tant de crédits carbone sur la base d'un scénario de base, hein, de référence, de temps, etc., etc. Et après, donc ce project design document, c'est le premier document, mais on va pas du tout s'arrêter à ça. En fait, ce qui va se passer après, c'est qu'il va y avoir des audits d'auditeurs indépendants qui ne sont donc pas le standard et qui vont auditer à la fin de chaque ce qu'on appelle période de monitoring, hein, du projet, si les crédits carbone qui correspondent aux crédits que réclame entre guillemets ou que affirme le développeur de projet sont bien au rendez-vous. Et donc il va pouvoir faire des visites de site, il va demander plein de documents pour pouvoir mettre en évidence la concrétisation de ces crédits carbone. Vous voyez, donc il y a quand même plein de gens dans l'affaire qui sont là pour vérifier la robustesse de ces crédits. Et puis les méthodologies qui sont aujourd'hui validées, elles sont open source, vous pouvez les voir.
Et donc ça veut dire que ces labels, ils sont pas sur le puits de carbone en tant que tel, mais vraiment sur la deuxième compensation dont vous nous parlez, c'est-à-dire le projet qui vise à réduire.
Ils sont sur les deux.
Ah, ils sont sur les deux.
Oui, okay. Ils sont sur les deux.
D'accord.
Aujourd'hui, vous avez vraiment des projets qui vont être validés par Gold Standard ou par Vera, qui sont sur les deux. Alors ça, c'est le cadre de la finance carbone internationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de labels nationaux qui se créent. Et en particulier en France, vous avez le label bas carbone, qui est donc un label qui est monitoré par la Direction générale climat, hein, au ministère de l'Environnement.
Donc un label public ?
Ouais, tout à fait. Là, c'est l'État qui va aller, valider diverses méthodologies, avec l'appui de scientifiques, hein, pour pouvoir mettre en œuvre des projets sur notre sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets, du coup, sur notre sol, vont être en général plus chers en termes de prix à la tonne de CO2. C'est plutôt de l'ordre de 30 à 150 euros la tonne. Vous voyez? Donc ça, typiquement, ça va être des projets de reforestation. Ça va être aussi des projets liés à l'agriculture. Donc, par exemple, au fait de pouvoir récupérer le méthane qui va être issu de l'élevage pour pouvoir l'utiliser comme source d'énergie. Ça aussi, c'est une méthodologie qui a été approuvée. Mais c'est encore assez récent, hein. Le label bas carbone, il a seulement quelques années. Donc, il y a assez peu de méthodologies aujourd'hui qui ont été approuvées. Et il y a un gros enjeu d'accélération de ces initiatives.
Mmh. Je voudrais parler maintenant de l'efficacité de la compensation carbone. Ce qui m'interroge le plus, c'est le risque que l'on a justement à ne pas inciter à changer nos pratiques, c'est-à-dire à inciter à continuer à produire autant d'émissions de gaz à effet de serre, même si vous le dites et c'est pas ce que vous promouvez chez EcoAct, mais que de fait on reste quand même dans cette même logique et que les entreprises ne soient pas incitées à réduire mais à compenser.
Oui, tout à fait. Bah, je pense que effectivement, il faut avoir aussi son jugement personnel sur les initiatives des entreprises. Il y a les entreprises qui effectivement vont suivre ce chemin dont je vous parlais, qui sont aujourd'hui quand même, je pense, les plus nombreuses, honnêtement. Enfin, nous, dans les clients qu'on suit aujourd'hui, il y en a plus aujourd'hui qui se disent on fait aucun effort sur les émissions de notre chaîne de valeur et passe directement à la phase 3, je compense. Aujourd'hui, ça n'existe plus, honnêtement. Tout bêtement, parce que, je dirais qu'en termes de responsabilité citoyenne, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça marchera juste pas. Donc, il faut quand même être assez limité pour se dire, dans 20 ans, on pourra plus respirer chez nous, mais en fait, ça m'est égal, vous voyez. Donc, je pense que des gens qui sont dans cette démarche-là, aujourd'hui, il y en a vraiment plus beaucoup. Et c'est des choses qui, des pratiques qui, si elles ont existé, disparaissent. Après, il y a la bonne volonté, effectivement. Enfin, c'est même pas de la bonne volonté, c'est juste du jugement, hein, du jugement un tout petit peu rationnel des entreprises qui voient bien qu'en fait, si elles restent sur des chaînes très carbonées, en fait, c'est, ne serait-ce que leur business, il a un avenir limité quand même, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des risques de transition importants. Donc, typiquement, des compagnies énergétiques qui aujourd'hui se préoccuperaient pas de leurs émissions. Ben, je pense que c'est assez facile de voir que, si vous voulez, de l'autre côté, il y a la pression des États qui va, de toute façon, réglementer de plus en plus le prix du carbone, qui va pénaliser les industries les plus émettrices de plus en plus. Et donc, enfin aujourd'hui, une industrie pétrolière, par exemple, une boîte pétrolière, si aujourd'hui elle fait aucun effort, je pense que la probabilité qu'elle aille dans le mur, elle est quand même assez élevée, voyez. Donc aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'initiatives aussi volontaires. Et je pense en particulier à à deux initiatives qui sont liées l'une à l'autre. Hein. Il y a le Carbon Disclosure Project et les Science Based Targets, qui sont deux initiatives qui sont liées parce qu'en fait, les science-based targets ont été initiés notamment par le Carbon Disclosure Project, qui est en fait une initiative inter-État à l'origine principalement américaine, hein, mais qui aujourd'hui, c'est en gros généralisé à tous les continents. Cette initiative Carbon Disclosure Project, elle consiste à demander aux grandes entreprises de faire un reporting carbone. Donc ça, vous l'avez peut-être vu de façon, je dirais, annuelle dans les journaux. Vous avez des grands articles qui expliquent que le Carbon Disclosure Project a attribué des notes aux entreprises en fonction de leurs réponses. Et leurs réponses, qu'est-ce qu'elles permettent de juger? Elles permettent de juger, un, je dirais, la prise de conscience interne de ces sujets-là et le niveau de le niveau d'attention que ces sujets-là ont en interne et à quel niveau finalement de l'organisation c'est géré. Si par exemple c'est géré au niveau du conseil d'administration ou alors si c'est géré par voilà l'équipe de RSE qui sont deux et qui font de leur mieux, vous voyez. Et donc c'est pas du tout les mêmes impacts. Donc qui juge ça, le niveau de prise de conscience du sujet, et après ils gèrent les actions bien entendu. Que font les boîtes? Est-ce qu'elles monitorent, est-ce qu'elles mesurent leurs émissions? Est-ce qu'elles réduisent? Qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement?
Donc ça leur donne une note.
Elles donnent une note. A, double A, B, C, D, E. Enfin, on a tout, hein. Et ce truc-là, maintenant, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit quand ça
sort. C'est volontaire ou toute société?
C'est complètement volontaire. Okay. C'est volontaire, mais si vous voulez, enfin, c'est tellement volontaire que si aujourd'hui on le fait pas, enfin voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fait par la plupart des grandes entreprises. Hein. J'ai le CAC 40, je sais même pas s'il y en a une qui ne répond pas au CDP aujourd'hui. Hein.
D'accord.
Et à côté de ça, vous avez donc la Science Based Target Initiative. Ça va un petit peu plus loin. Ça dit en fait, voilà, vous avez fait vos bilans carbone. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire? Sur quoi est-ce que vous vous engagez? Quelle va être votre trajectoire de réduction sur les années qui viennent? À 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et donc là, en fait, vous vous engagez publiquement, vous leur soumettez un dossier, vous en tant qu'entreprise, pour leur dire, eh ben, moi, je vais m'engager à réduire de, je sais pas moi, 5% par an pendant 10 ans. Et ces trajectoires-là, pour qu'elles soient acceptées, pour que votre dossier soit accepté par le Science Based Target Initiative, il faut qu'elles soient cohérentes avec les accords de Paris. Donc les accords de Paris, comme vous le savez, ils ont dit, ben en fait, il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir avoir une augmentation de la température qui soit sous 1,5 degré ou en tout cas bien en dessous de 2. Sachant que c'est dans pas longtemps, hein, vous voyez.
On n'y est pas du tout.
Voilà. Donc en fait, le SBTI, il va valider vos trajectoires que si elles sont cohérente avec ça. Et donc nous aujourd'hui, on a un très grand nombre de nos clients, même des plus petits maintenant, hein. C'est parti des grandes parce qu'elles ont la pression de leurs investisseurs et de leurs clients, mais maintenant même les plus petites, elles ont vraiment envie d'y aller, elles veulent comprendre. Donc il y a une vraie mobilisation. Donc ça c'est vraiment super. Après
est-ce que c'est les entreprises les plus polluantes qui viennent vous voir, parce que dans ce que vous dites ça m'interroge. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les contentieux climatiques et notamment les contentieux qu'ont les entreprises privées qui sont jugées responsables des changements climatiques, et il y a certains rapports qui mettent en avant qu'on a 25 entreprises dans le monde qui sont responsables de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 80. Ce qui paraît, en fait, énorme de se dire qu'on n'a que 25 entreprises qui sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont en fait essentiellement les entreprises pétrolières. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, c'est essentiellement vos clients, ou justement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus divers que ça?
Alors, c'est beaucoup plus divers que ça pour deux raisons. La première, c'est que, heureusement, celles-ci, elles s'y sont mises il y a beaucoup plus longtemps que ça. Et du coup, là, elles ont assez avancé. Et par ailleurs, elles ont aujourd'hui pas mal internalisé la compétence, si vous voulez. Enfin, pour une entreprise de ces secteurs-là, c'est pas un sujet connexe. C'est un sujet qui est au cœur de leur business. Et donc aujourd'hui, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, vous voyez, un Shell, par exemple, aujourd'hui, c'est des concurrents en fait. C'est-à-dire qu'ils ont toute une équipe qui fait de la compensation, ils ont créé leur propre projet, enfin voilà, c'est des acteurs, et fort heureusement, c'est des acteurs qui aujourd'hui sont positionnés sur ces sujets-là, que ce soit les énergéticiens ou les entreprises d'électricité ou d'énergie fossile. Non, aujourd'hui, nous, on a beaucoup de clients qui sont dans plein de secteurs différents. Tous les secteurs sont vraiment représentés.
D'accord. Donc il y a pas d'entreprises aujourd'hui qui sont incitées à continuer comme avant ou incitées à augmenter leurs émissions en sachant qu'elles les compensent derrière.
Non, ça n'existe plus, honnêtement.
Sur l'efficacité, j'ai une dernière question. Est-ce que, comme c'est la mise en place de projets, la compensation carbone, est-ce qu'on peut vraiment dire que ces projets n'auraient pas vu le jour s'il n'y avait pas eu cette compensation carbone?
Ça, c'est un point clé. C'est peut-être le premier point que vérifient les labels quand ils ont des dossiers, et sur lesquels d'ailleurs ils rejettent des dossiers. C'est toute la problématique d'avoir, par exemple, je vais vous donner un exemple un peu précis là-dessus. On a eu pas mal de projets d'énergie renouvelable en Inde, par exemple, ou en Turquie, ou dans des pays qui sont en voie de développement, mais qui sont quand même assez avancés sur la courbe du développement. Qui ont généré des crédits carbone dans les années précédentes parce que c'était des projets qui étaient vus comme non viables intrinsèquement. Et en fait, à partir de l'année dernière, le Gold Standard et Vera ont tous deux dit qu'à partir de maintenant, ils n'attribueraient des crédits carbone que aux projets énergie renouvelable qui sont dans les pays les plus pauvres. Ce qui ne veut pas dire que les projets existants ne peuvent plus émettre de crédit carbone. Si vous voulez, les projets qui ont déjà été tamponnés entre guillemets par le Gold Standard en Inde, on leur explique pas du jour au lendemain qu'ils vont plus pouvoir vendre leur crédit, parce que sinon ils font juste faillite en fait. Mais par contre, si vous êtes un nouveau projet, il faut que vous cherchiez une rentabilité intrinsèque.
D'accord.
Et donc ça, c'est vraiment la question de préserver l'additionnalité. C'est-à-dire, encore une fois, le critère de si on n'avait pas mis de l'argent de la finance carbone, ce projet n'aurait pas vu le jour.
D'accord. Donc, il ne faut pas qu'il soit rentable, en fait, à l'ouverture du projet. Enfin, il faut qu'il y ait besoin d'un argent extérieur, quoi.
Okay. Exactement.
OK, intéressant. Je vais aussi, évidemment, parler du greenwashing. C'est peut-être ce qui peut frapper quand on voit qu'une entreprise, en effet, comme Nespresso, met en avant le fait qu'elle a une capsule zéro carbone, ça interroge nécessairement, parce qu'on se dit que, d'un point de vue individuel, si tout le monde doit réduire ses compensations, peut-être que c'est justement en n'allant pas vers une pratique du jetable, en tout cas, pour la consommation de café, en l'occurrence. Est-ce que vous le constatez, c'est quand même un secteur dans lequel il y a du greenwashing. Et il faut savoir différencier les différents types de compensation carbone.
Ouais, après sur la question de Nespresso, je pense quand même qu'il y a deux sujets quand même là. Il y a la gestion des déchets. Et ça, quand Nespresso vous dit on est zéro carbone, il parle pas de ça en l'occurrence. Vous voyez ?
D'accord.
C'est-à-dire que ils peuvent être effectivement super clean sur la partie carbone en compensant. Mais il leur reste effectivement à gérer, j'imagine, parce que enfin sur le Nespresso, on pense tout de suite à ça, hein, on pense à la capsule, comment est-ce qu'elle est recyclée et tout ça. Malheureusement pour l'humanité, le problème du carbone n'est pas l'unique problème.
Oui. Mais on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier, c'est-à-dire que bien souvent, en fait, on nous a tellement parlé des changements climatiques que bien souvent, on pense que le problème environnemental majeur, c'est une question d'émissions de gaz à effet de serre et qu'en fait, non, bah, la question de la pollution, la question, de manière générale, oui, des pollutions des eaux, des sols, etc., c'est très différent, en fait, de la question des émissions de gaz à effet de serre. Ça a des liens, mais c'est quand même très différent.
Tout à fait. Et puis après, il y a des entreprises qui choisissent de communiquer d'une certaine façon et d'autres pas. Il y a des gens qui disent, il y a des entreprises qui se disent neutres en carbone, zéro carbone, etc. Et après, il y en a d'autres qui disent qu'ils compensent leurs émissions carbone, vous voyez, par l'achat de crédits. Donc ça, c'est un peu différent. Vous voyez, on peut parler de produits qui sont compensés, mais qui sont pas forcément neutres. Après, je dirais, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots et il faut bien les choisir pour donner aux consommateurs une vision qui soit exacte. Vous voyez, qui reflète ce qu'on fait.
Je comprends. Mais du coup, dans la logique de dire, la compensation carbone doit arriver en dernier, c'est-à-dire pour les émissions qu'on ne peut pas faire disparaître. De fait, on peut quand même s'interroger pour un produit qui nécessite beaucoup d'énergie parce qu'il est jetable et donc derrière potentiellement recyclé, mais pas forcément, etc.
Oui, bah, si vous voulez, moi, je suis profondément convaincue que la compensation, ça va dans la bonne direction. C'est-à-dire que il vaut mieux, c'est mieux pour une entreprise d'en faire que de ne pas en faire. Vous voyez, ça contribue positivement. Est-ce que c'est la réponse à tout? La réponse, elle est clairement non. Et là-dessus, il faut être clair. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi à nos clients, mais on a de moins en moins besoin de leur dire parce qu'ils s'en sont un peu rendus compte tout seuls. La compensation, ça va dans la bonne direction, mais personne n'est là pour croire ou pour faire croire que c'est la solution à tout, ça se voit, vous voyez. C'est un peu l'évidence, quoi.
Et est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est particulièrement pertinent? Alors moi, je pense à l'aérien, puisque l'aérien est souvent pointé du doigt comme émettant beaucoup de gaz à effet de serre. Et je voudrais aussi qu'on parle de ce qui m'anime aussi du côté de l'alimentation et de l'importance des émissions de gaz à effet de serre du côté de l'alimentation. Est-ce que c'est particulièrement pertinent pour certains secteurs ou c'est pertinent pour tous les secteurs?
Bah, c'est vrai que l'aérien, c'est sûr que c'est un secteur qui est très émissif. Et comme c'est un secteur qui a été attaqué très tôt, c'est un secteur qui s'est pris en main très tôt sur ces sujets de compensation et qui a du coup fléché beaucoup d'argent sur ces projets de compensation. Ce qui, pour moi, est une bonne nouvelle. Sachant qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ou les acteurs privés, personne n'est prêt à interdire les avions, vous voyez. Enfin, on va pas dire du jour au lendemain, ce serait la guerre civile. Si on expliquait maintenant aux gens, maintenant, on n'a plus le droit de voyager pour le tourisme. Et même pour le business, débrouillez-vous, faites des zooms. Je pense pas qu'il y ait un seul pays au monde qui soit prêt à faire ça. Et je pense que les répercussions seraient c'est impossible de savoir ce qui se passerait si on prévoyait ça. Après, qu'il faille trouver des solutions pour l'aérien pour que ça émette moins, ça, c'est clair. Que la compensation, ce sera pas suffisant. Et aujourd'hui, les recherches sur l'hydrogène, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est pas une solution miracle. C'est une solution qui permet d'avoir un combustible bas carbone transportable. Mais je veux dire, c'est tout ce que ça fait, hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine émission.
Toute activité, de toute façon.
C'est pas la panacée, hein, c'est ça. Mais au moins, si on arrivait à mettre de l'hydrogène à la place du kérosène dans les avions, on aurait quand même résolu. Enfin, on n'aurait pas résolu le problème, mais on aurait fait des gros progrès. Vous voyez, pour moi, l'aérien, c'est un sujet qui est pas facile parce que c'est clairement très émetteur. Il faudrait trouver des moyens pour que ça le soit moins. Je pense que là-dessus, il y a une prise de conscience globale. Maintenant, est-ce que volontairement le monde aujourd'hui est prêt à switcher complètement de mentalité et à se dire finalement les avions, on n'aura plus le droit de les utiliser par exemple pour titre de loisir? Personne aujourd'hui pourrait imposer ça.
Mais on se dit qu'à un moment, si on lit de manière scrupuleuse les rapports, c'est tellement alarmiste qu'on se dit qu'à un moment, il n'aura pas le choix, potentiellement en tout cas, qu'évidemment qu'il n'y a pas de courage politique. Je ne sais pas s'il faut parler de courage, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté politique pour aller dans ce sens-là. Mais certains rapports, alors en l'occurrence, j'ai plus le nom en tête de ce rapport, mais qui qui disait quoi faire pour essayer d'atteindre justement ces 1,5 degré d'émission de gaz à effet de serre, 1,5 degré pardon, de réchauffement climatique, disait que l'aérien, fallait quasiment le supprimer.
Pas l'aérien, si vous voulez, c'est effectivement une des questions du problème, mais je dirais qu'il faut pas forcément se focaliser là-dessus. Il y a aussi, le gros problème, c'est notre consommation d'énergie au sens large. Alors c'est vrai que en fait, ça consomme beaucoup d'énergie de faire un kilomètre en avion, mais ça consomme à peu près pareil en fait de faire un kilomètre en voiture. La seule chose, c'est que les gens ils font moins de kilomètres avec la voiture. Voyez, en fait, vous faites 1500 km en avion, ça vous prend 2 heures, c'est super, voilà, et vous le faites comme ça. Faire 1500 km en voiture, vous réfléchissez à 2 fois, voyez. Donc effectivement, l'avion c'est une cause, mais maintenant il faut qu'on fasse des efforts dans tous les domaines et particulièrement dans les domaines de l'énergie en fait, où aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé collectivement comment sécuriser notre utilisation d'énergie sans émettre de façon excessive. Et en fait, il faudrait juste qu'on baisse notre consommation d'énergie. Vous voyez, pour baisser la consommation d'énergie dans le monde. C'est ça, pour moi, la clé. La clé, c'est soit la baisser, soit la rendre plus efficace. Mais c'est ça. Vous voyez, donc... moi, je pense que c'est tous les secteurs qui doivent travailler à ça. Et l'agroalimentaire, ils ont aussi du travail. Vous voyez, nous, aujourd'hui, pour rebondir sur votre deuxième question, nous, on a beaucoup de clients en agroalimentaire qui, justement, aujourd'hui, ont des démarches, moi, que je trouve très intéressantes, qui sont dans, finalement, le co-développement de projets typiquement de compensation, sur des terrains qui leur sont proches. Donc, ça va être, par exemple... ça peut être la culture d'arbres fruitiers pour des entreprises agroalimentaires qui travaillent autour du fruit. Ça peut être pour les entreprises qui vendent de l'eau minérale, par exemple. Ça peut être le fait d'investir dans des projets d'eau potable, donc filtre à eau, comme je vous le disais, ou puits. Aujourd'hui, chaque acteur, il va regarder sa chaîne de valeur et il va se dire, finalement, comment est-ce que je peux investir de façon le plus connexe possible avec mon business, dans les mêmes pays, sur des chaînes voisines ou même sur les mêmes chaînes. Comment est-ce que je peux faire en sorte de remédier, entre guillemets, avec le maximum de proximité.
Donc, la réponse à ma question, c'est en tout cas que tous les secteurs sont concernés.
Oui.
Et qu'il y a pas, c'est pas particulièrement plus pertinent
de
compenser.
D'ailleurs, les secteurs qui sont soi-disant décarbonés. Enfin, aujourd'hui, il y a pas de secteur décarboné. Tout le monde a ce problème-là. Et il faut que tout le monde y travaille. Il y a des secteurs qui ont peut-être des sujets, d'autres sujets, et notamment environnementaux, que eux considèrent peut-être comme plus importants que leurs problèmes carbone parce qu'ils sont très polluants ou parce que ils utilisent beaucoup de plastique ou ils font beaucoup de déchets. Donc ça, c'est vrai, hein. Enfin, encore une fois, le carbone, c'est un énorme souci. Ça, on est tous d'accord. Le problème de la biodiversité aussi est en train de venir.
Sur le sujet de l'alimentaire,
sur la place. Ben oui, c'est ça, parce que si vous voulez, à la fin, si on a tous super chaud et qu'il y a plus que, le 5e ou le 10e de la surface de la Terre qui est habitable, on aura un souci. Et pareil, si on n'a plus rien à manger, on aura un autre souci. Donc je dirais que il faut vraiment adresser tous ces sujets-là.
J'ai une question par rapport à cette efficacité de la compensation carbone. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui des choses pour augmenter l'impact positif de cette pratique
de la compensation carbone? Oui, alors je pense que ce qu'on peut faire sur ce marché de la compensation carbone, c'est de le rendre de plus en plus accessible et de plus en plus fluide. Aujourd'hui, c'est un marché finalement qui s'est développé, qui jusqu'à il y a 2-3 ans, le volume total de la compensation, c'était peut-être 100 millions de dollars par an, vous voyez, peut-être 200 si on regarde bien tout autour, quoi. Mais c'est vrai, c'est quoi, tout petit, économiquement. Donc, faut que ça grossisse. Pour que ça grossisse, il faut que ça s'organise. Il faut qu'il y ait plus de transparence. Il faut qu'il y ait aussi plus d'attention sur les risques. Donc, EcoAct, nous, on a développé, comme on connaît, si vous voulez, le business depuis 15 ans. On travaille soit avec nos propres projets, soit avec des développeurs qu'on connaît depuis très très longtemps. En fait, l'idée, c'est de bien comprendre les risques d'un projet, de façon à éviter. Je dirais que le premier risque, c'est que l'argent n'aille pas où on veut qu'il aille. Et donc, il y a des risques de corruption, il y a des risques de... Ou alors, il y a des risques aussi de pérennité du projet. Est-ce que la forêt elle va être vraiment préservée? Il y a cet ensemble de risques géopolitiques, étant donné que c'est souvent dans des pays qui sont en voie de développement. Quels sont ces risques-là? Et donc, nous, en fait, on fait un audit à la fois... on fait un premier audit à distance, desk, où on va, éliminer quand même pas mal de projets. Et puis après, on va, une fois qu'on a fait ça, et qu'on s'est rendu confortable avec les documents juridiques, sur aussi les chaînes d'actionnariat des porteurs de projets, on va se rendre sur place pour bien étudier le projet et s'assurer que tout est bien carré, tout correspond bien à ce qu'on nous a dit. Et donc ça, s'il y a quelque chose effectivement sur lequel il faut faire attention. Alors il y a le label qui est, une première barrière, comme je vous le disais, les gold standards, etc. Donc si votre projet il est labellisé, c'est déjà beaucoup. Mais il faut vraiment, il faut aussi faire des due diligence complémentaires.
Et est-ce que vous travaillez avec des projets qui ne sont pas labellisés?
Ah non, non, non.
D'accord.
Non, je dirais que c'est au sein des projets labellisés, on ne travaille pas avec tous.
D'accord.
C'est plutôt ça. Voyez.
Ok. Donc c'est un préalable nécessaire, mais pas toujours suffisant.
Ouais. Nous, c'est ce qu'on pense. Après, si vous voulez, chacun peut avoir des avis un peu différents. Mais vous voyez, typiquement, il y a quand même un certain nombre de sujets à bien regarder sur ces, enfin, que je viens d'aborder, sur ces sujets-là, et donc nous, on fait une autre sélection derrière.
Ma dernière question, elle sera au niveau individuel. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de compenser ces émissions de carbone au niveau individuel? Aujourd'hui, on va nous le proposer quand on achète quelque chose ou typiquement quand on prend un billet d'avion.
Oui, écoutez, c'est un peu... ma philosophie là-dessus, c'est que ça va dans la bonne direction, donc moi, je le fais à titre personnel. Enfin, ces temps-ci, j'ai plus beaucoup d'occasions. Et puis même, à titre personnel, je fais attention à pas prendre l'avion vraiment le minimum. Mais quand je le fais, je compense, parce que même si on sait que finalement les offres qui sont à destination du grand public, on est forcément un peu plus loin, je dirais, du projet que des entreprises qui vont passer par le B2B, où donc il y a finalement un circuit assez rapide. Je pense que c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que, encore une fois, ça va dans la bonne direction pour le climat. Après, est-ce qu'il faut se donner bonne conscience?
Oui, c'est
si
un peu
on
ça.
Fait, non, mais en fait, si est-ce que on peut comme ça s'enlever de sa charge mentale le problème du climat parce qu'on a contribué 30 euros parce qu'on va à Los Angeles tous les mois? La réponse, elle est non, quoi. Mais c'est mieux que de ne pas le faire. Voilà, moi, c'est ça ma conviction.
Ok, super, super conclusion. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !